Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman, vous allez bien?
Bonjour Valérie, bien et vous?
Bah oui, on a reçu
des petits cadeaux pour la fête des mères?
Voilà, absolument, absolument. Bon, nous sommes le lundi 8 juin, nouvelle semaine avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Dans un instant, on va être avec la grande gagnante de Koh-Lanta, Nawel, boxeuse. Et oui, Rémi avait eu de l'intuition, Rémi Pernelet, puisque vous étiez persuadé que Claude allait gagner.
Claude,
et voilà. Et,
bah, sur les
et
poteaux,
bah oui, mais il y avait deux femmes, un homme. Voilà, bah non, Claude a perdu au poteau, donc Nawel va nous raconter comment elle a vécu cette saison et puis cette victoire surtout. Et on aura avec nous également Laurent Ventura, le fils de Lino Ventura, pour parler de cet hommage qui est rendu à son père, Cycle Lino Ventura sur France 3. Il a écrit un livre, il va nous parler de son père et ce sera à suivre dans un instant. Et puis on parlera foot avec Rémi Pernelet dans un instant également pour revenir sur les conséquences de l'arrêt du championnat sur les clubs de foot, sur cette décision de ne pas reprendre le championnat alors qu'un peu partout en Europe c'est pourtant le cas. 0826 300 300. On va commencer avec les audiences et le gros carton de Koh-Lanta, évidemment Koh-Lanta. Ça c'est je crois que c'est la meilleure saison ever, comme on dit. C'est un record, 6 925 000 téléspectateurs, 31,8% de part d'audience pour cette finale, 500 000 de plus que la semaine dernière, 3 300 000 de plus que la finale de l'an dernier. C'est le meilleur score pour une finale depuis 2013. Très bon score tout de même pour Candice Renoir qui était en rediff, 4 084 000 téléspectateurs. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et puis sur France 3, il y avait les chœurs, vos chansons préférées des années 70, un peu plus de 2 millions de téléspectateurs. Samedi soir, c'est France 3 toujours qui arrive en tête avec sa fiction Les Mystères de la basilique. On a Sonia de Perpignan en ligne avec nous. Bonjour Sonia, vous avez regardé quoi ce week-end?
Bonjour, oui. J'ai regardé The Voice pour suivre un peu. Je peux donner mon avis. J'ai une préférence pour Terrence qui a chanté une chanson émouvante de Calogero. Si seulement je pouvais lui manquer, ça m'a touchée. Il chante très bien, il est émouvant. Par contre, Cheyenne, je n'ai pas trop apprécié. J'ai l'impression qu'elle hurle plus qu'elle ne chante pas avec ses tripes. Pour moi, elle hurle trop. Ouais. Voilà. Ouais. Et après, vers 23h, je me suis endormie. J'étais fatiguée, je me suis endormie. J'ai pas vu la suite.
Ah, vous n'avez pas vu. Donc, vous n'avez pas voté.
Je n'ai pas vu parce que j'avais une journée marathon ce jour-là et je ne me suis même pas rendu compte. J'étais dans les bras de Morphée.
Dans les bras de Morphée.
Vous ne connaissez pas les quatre finalistes.
Mais vous connaissez les quatre finalistes?
Je ne sais pas. Parce que je me suis endormie, je vous dis, je me suis réveillée trop tard.
Bon, il n'y a pas Terrence dedans, hein, Gilles?
Non, il y a Abby. Oh là là, je vous le dis de tête, parce que il y a eu une énorme polémique, mais il y a Abby, il y a Gustine.
J'ai piégé Gilles, absolument.
Il y a Tom et Antoine Dely. Alors, il y a Abby, Antoine Dely, Gustine et Tom Rochet. Voilà, pour les quatre qu'on va retrouver samedi prochain.
Bravo Gilles. Merci Sonia de nous avoir appelé. C'est un bon score pour The Voice, même si The Voice arrive derrière France 3. Comme je vous le disais tout à l'heure, 3 819 000 téléspectateurs. C'est tout de même 1 100 000 téléspectateurs que le dernier numéro. Donc non, ce n'est pas un très bon score pour une demi-finale. Ça aurait dû être un petit peu meilleur. Et puis hier soir, c'était TF1 qui est arrivé en tête avec le film Agent presque secret. 5 300 000 téléspectateurs. Un carton également, me dit Rémi Pernelet, pour Arte avec le film de Tarantino, Les 8 salopards. Arte, 5e chaîne hier soir avec plus de 2 millions de téléspectateurs. Donc ça... Plutôt pas mal fonctionné. Voilà. On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors. Valérie, dans l'actualité et sur tous les médias, c'est évidemment l'affaire George Floyd qui continue à faire des remous, et ce, dans le monde entier. Une colère qui est parfois prétexte à des propos hallucinants qui font le buzz. C'était dans la manifestation de samedi. Écoutez bien.
La France, je dis bien, la France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste.
Oui!
Bon, à noter que la personne qui parle a été condamnée pour viol sur personne vulnérable. Ça situe un peu le personnage. Je suis sûr que vous allez revenir.
Non, mais ce que disaient les réseaux sociaux, c'est qu'il aille dans certains pays totalitaires, justement fascistes, pour voir s'il pourra s'exprimer de façon aussi libre. Voilà.
Voilà. Toujours l'affaire Floyd, hier Yannick Noah était sur France 2 et a regretté que seule une partie des sportifs se mobilise. C'était chez Laurent Delahousse.
Ça fait du bien d'entendre aujourd'hui Kylian Mbappé, Tsonga, mon fils Noah, prendre la parole. Peut-être que pour beaucoup de jeunes, c'est important de vous entendre dire les choses aussi et prendre la parole. Avant, il y avait
une forme... C'est bien que les jeunes s'en occupent, mais moi ce qui me gêne, c'est que ce sont tous des métis ou des noirs. Pourquoi ? C'est une injustice qui parle, qui devrait parler et en tout cas sensibiliser tout le monde.
Vous dites aux autres sportifs, par exemple, blancs, s'ils peuvent s'engager, dire les choses?
Oui, parce que leur silence me gêne.
Dans son 20h, France 2 revenait sur l'info révélée par le site, vous savez, Street Press, d'un Facebook où des policiers, une page Facebook où des policiers et quelques gendarmes s'échangent des blagues et des messages racistes. Un site qui regroupe plus de 8000 membres. Évidemment, il y a un début de polémique.
Elle a fait réagir hier le ministre de l'Intérieur qui dénonce des propos punissables par la loi. Comme ce commentaire se voulant ironique suite à un rodéo sauvage. C'est moi ou ce sont toujours des Suédois? Suédois ou Norvégiens, j'ai toujours un doute, enchaîne un autre. Pour les syndicats de police, ce n'est pas tolérable.
Il peut y avoir des personnes qui ont des tendances à caractère raciste, xénophobe, antisémite, discriminatoire. Et ils doivent faire l'objet de sanctions parce qu'ils n'ont pas leur place, effectivement, au sein de la police nationale.
C'était dans le journal du dimanche hier, le professeur Defrécy, qui préside le conseil scientifique et qui conseille le président et le gouvernement, est revenu sur la décision du confinement qui, d'après lui, n'aurait pas été forcément une bonne décision. Il a confirmé ses propos sur BFM.
La décision, entre guillemets, du politique, certes éclairée par les informations qu'on a pu lui donner, n'était pas la bonne décision. C'était la moins mauvaise des décisions, c'est probablement ce qu'on pouvait faire. Et c'est ce qui nous restait à faire début mars en cette situation. Donc c'est bien pour ça que dans les scénarios dont on va parler maintenant, il faut tout faire pour ne pas se retrouver dans la même position que début mars.
On va
il a donné un mauvais conseil.
Non, il a dit c'est la moins mauvaise des décisions, mais c'est vrai qu'on apprend qu'on a été confiné parce que on a manqué de masques, mais aussi de tests. C'est-à-dire que nous on avait 3000 seulement par semaine, alors que les Allemands en avaient 10 fois plus, voire beaucoup plus. Donc effectivement des propos qui font réagir et on en reparlera à 11h.
Dans Quotidien, la proposition du président qui ne passe pas, celle où les Français pourraient offrir leur jour de congé, vous savez, au personnel soignant, et ce sous forme de chèque vacances. Colère de François Salachasse, médecin neurologue.
On assiste à quelque chose qui est quand même à la limite de l'indécence, qui est demandé à la population de faire des efforts pour les soignants. Essayer de surfer sur la vague d'empathie de la population, qui est une vague d'empathie justifiée eu égard à ce qui s'est passé pendant la période Covid, vraiment ça a quelque chose d'indécent. Et là, la colère, elle monte énormément. Je veux dire, pour moi, les chèques vacances, c'est un écran de fumée.
Ouais. Vendredi, Patrick Cohen s'est payé dans un long édito la tête du professeur Raoul. Il a même ironisé, vous savez, sur les arguments du professeur à propos de son étude sur un petit nombre.
Plus l'échantillon d'un test clinique est faible, plus ses résultats sont significatifs. 20 personnes valent mieux que 10 000. Alors, moi j'ai un conseil à donner aux lycéens qui nous écoutent en attendant que vos manuels soient révisés. Ne faites pas ça chez vous. Si vous écrivez dans un devoir de maths, les stats sont enseignés je crois en seconde et en première, que plus l'échantillon est petit, plus les conclusions sont pertinentes, vous risquez d'avoir des surprises ou alors vous citez l'auteur, c'est comme pour la chloroquine, ça peut marcher.
Et tout était de cet acabit. Il fait 9 minutes d'édito de Patrick Cohen. Et
il s'est fait pas mal bousculer sur les réseaux, Patrick Cohen, évidemment, avec les pros et anti Raoult. Allez-y.
Maria n'ira pas en finale, Valérie. C'est triste, mais une polémique est en train d'enfler sur les réseaux, sur le bidonnage des votes, puisque chacun, vous savez, des coachs à un candidat, comme par hasard. Et comme par hasard, Tony, qui pour les internautes était celle qui devait aller en finale, n'a pas été dans les finalistes. Alors, des questions se posent. Moi, je vous propose de faire votre propre avis. Voilà ce que chantait Tony. Tous mes idéaux, mes mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis du génie. C'est Tony qui n'a pas été choisi. Et vous ne voyez pas cette
normal.
Reprise hein
Je savais, c'est normal, non
non. Non, parce qu'elle reprenait une chanson. Bah oui, enfin c'était pas mal, elle reprend une chanson de Mylène Farmer, qui est chantée avec une petite voix.
Mais non, mais je ne vois pas la performance, je trouve ça sans intérêt.
C'est vrai que j'avais fait le pari avec le réalisateur, hein. J'avais dit à Jamel, attention, sur cette info-là, ça va être très violent avec Valérie, j'ai gagné mon pari.
Non, mais franchement, je ne trouve pas la voix formidablement extraordinaire, pardon.
Eh bien, vous irez sur les réseaux sociaux, vous taperez Tony Injustice et vous verrez que vous n'avez pas la même oreille que tout le monde. Oui.
Non, de toute façon, il y a toujours des polémiques sur les votes, hein, quel que soit le résultat, à chaque fois.
Valérie
Encore
Expert,
que... quoi ?
Vous savez que je vous aime, Valérie Expert. Pourquoi ? Vous êtes impayable. Oui. Je vous aime.
Non, mais franchement, je me suis demandé pendant qu'on écoutait si c'était bien ou pas bien. Puis moi, j'ai pas trouvé ça bien. Voilà. allez, il y a une gagnante qui est incontestable. C'est Nawel. Oui. Bonjour.
Oui, bonjour Valérie.
Bonjour. Il faut me prévenir quand on envoie le générique de Koh-Lanta parce que sinon je parle dessus.
Ça vous a déstabilisé.
Voilà. Rien ne me déstabilise. Bonjour Nawel, comment ça va ?
Ça va très bien, merci. Vous me faites rire.
Vous fait rire ? Non, mais franchement, vous l'avez trouvé bien cette reprise, vous ? Vous l'avez regardée ?
Pas du tout, mais du coup, là, j'étais. Et déjà, j'étais en train de me demander déjà, mais c'est quoi la chanson ? Qu'est-ce qu'elle était en train de chanter ? Déjà, je n'arrivais pas à reconnaître.
Donc, c'était Désenchanté de Mylène Farmer.
Et ben voilà, on a deux réactions qui me donnent raison. Corinne nous dit je préfère la version originale et Vulf dit c'est une alarme de voiture. Donc voilà, bon, tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être que vous irez à The Voice l'année prochaine, Nawel.
Vu mes qualités de chanteuse, c'est pas du tout quelque chose que je vais, à mon avis, développer. Pas du tout, non.
Donc, gagnante de Koh-Lanta, vous avez battu tous les pronostics, puisque les gens attendaient Claude, et vous avez gagné. Alors déjà, dans quel état d'esprit vous êtes ce matin ? Parce que ça a dû être un tsunami après l'annonce de votre victoire vendredi soir.
Effectivement, oui, ça a été assez... mon week-end a été assez chamboulé. Ça a été assez... éprouvant émotionnellement parce que entre la famille, les amis, les gens qui vous reconnaissent dehors, tous les messages, j'ai été un petit peu inhibée, mais je vous cache pas que en ce moment, comme vous avez pu le voir à la télévision, je suis enceinte et j'essaie de préserver quand même un petit peu ma grossesse. Alors du coup, j'essaie de répondre à tout ce beau monde qui me touche vraiment le plus lentement possible.
Bon, moi, je voulais savoir. Ouais. Attendez, allez-y Gilles.
Allez-y. Non, moi je voulais vraiment vous féliciter parce que j'ai suivi vraiment tous les épisodes, vous avez fait un parcours incroyable, vous avez été vraiment aussi proche de tout le monde, vous n'avez pas fait d'entourloupe, on va dire. Et évidemment, votre victoire, elle est très forte et ça ne doit pas être simple avec tout le monde qui attendait Claude. Donc, je pense qu'il faut être très forte quand même pour gagner Koh-Lanta et je voulais juste passer le message parce que ça doit être dur quand même d'entendre tout ce que vous entendez par rapport à Claude.
Eh bien, écoutez, déjà, je vous remercie de le souligner et de me le dire parce que ça me touche personnellement. Et effectivement, c'est pas évident parce que, effectivement, tout le monde, je crois que Koh-Lanta ait commencé, avant même que l'aventure ait commencé, quand on commence une aventure et qu'on sait qu'il va y avoir des héros qui ont déjà créé, qui ont suscité déjà de l'intérêt, ou alors tout simplement pour les personnes pour qui bah, ils le voyaient déjà vainqueur. Alors c'était au début c'était Claude, Théoura, après il y a eu Sam. C'est vrai que ça a été difficile en tant que nouvelle aventurière de tirer un petit peu cette épingle du jeu auprès des téléspectateurs. Et ça s'est fait progressivement avec moi, et je pense que ce soit par rapport à ma façon de vivre sur le camp, et aussi bah, de me démarquer par rapport à mes victoires sur les épreuves. Je pense qu'à un moment, même si tout le monde voyait Claude, ils espéraient me voir en finale avec Claude, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé dans la réalité, puisque entre ce qui se passe sur Koh-Lanta et ce qu'on voit à la télé, bah, il y a un décalage. Et en tout cas, je vous remercie de souvenir.
Alors certains disent tout de même, là je vois Brigitte qui nous dit oui, mais quand même en choisissant Inès, elle savait qu'elle allait gagner. Mais Claude en même temps, il a dit qu'il aurait fait pareil, hein, donc ce choix-là, il est, on peut pas vous reprocher de faire le choix de la victoire.
Alors sur le moment, Claude dit justement le contraire, dit que lui il m'aurait choisi parce qu'il aurait choisi le côté sport. Mais ouais. Et moi j'ai pas vu comme ça en fait déjà sur le moment. Et combien même lui l'aurait fait. Déjà, quand il me parle de ses anciennes aventures et qu'il me dit que la dernière fois, il avait choisi le côté sport et que ça lui était passé devant, à ce moment-là, hormis effectivement les liens que je peux avoir avec Inès et que j'ai tissé tout au long de l'aventure, en sachant que vraiment, c'est une des personnes avec qui je me suis très, très vite attachée dès le début de l'aventure, je savais très bien qu'effectivement, auprès du jury final, on n'était plus en mode sport, on était en mode stratégie. Et que il fallait vite se retrouver effectivement face à une personne avec laquelle j'avais pour moi le plus de chances de gagner. Et je savais que soit ça allait être limite, soit pas du tout pour moi auprès du jury final. Et c'est pour ça que je choisis effectivement Inès.
Ben oui, vous êtes boxeuse, hein, on peut le rappeler, vous êtes une très grande sportive, vous avez remporté 24 combats, sur 24 combats, 21 victoires, médaillée de bronze aux championnats du monde et d'Europe. C'est quand même très différent d'un combat de boxe, c'est Koh-Lanta, c'est-à-dire que le combat de boxe, vous êtes, alors le mental est très fort, mais vous êtes seule face à un adversaire, là il y a une dimension supplémentaire.
Bien évidemment. En fait, il y a certains paramètres et certains aspects de la boxe qui se rejoignent avec Koh-Lanta et qui m'ont, moi en tout cas, en tant que justement boxeuse professionnelle, m'ont permis de tenir jusque-là. Mais Koh-Lanta, c'est vraiment très très spécial parce que on n'a pas ces hommes de coin sur le coin du ring qui nous dit voilà comment tu dois faire, voilà la stratégie, voilà comment te débrouiller. Tu te débrouilles vraiment tout seul. Et puis voilà, c'est vrai que nous, on était des nouveaux aventuriers. Moi, franchement, quand les héros sont arrivés dans le jeu, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur, c'est pas quelque chose qui m'a déstabilisé, bien au contraire. Mais arrivé à la finale, là, c'était pour moi indéniable qu'il fallait que je sois
gagnée
pour pouvoir aussi gagner les 100 000 euros. Parce que faut dire que. Au final, c'est pas... même s'il y a le titre de Koh-Lanta, il y a aussi le gain final.
Bien sûr, qui est important.
Moi, j'aurais été inconsciente de choisir Claude à ce moment-là.
Ouais, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez... Attendez, j'étais en train de poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez vu Claude tomber des poteaux?
Honnêtement, ça se voit pas très très bien à l'écran, mais Claude ne bougeait pas en fait à ce moment-là, ne bougeait pas d'un poil, et c'est très déstabilisant quand moi je suis en train de souffrir le martyr avec mes pieds sur ce poteau où j'ai l'impression d'avoir un poignard dans la voûte plantaire, et à ce moment-là je me dis juste bon bah tiens jusqu'au bout que tu peux, parce que au final dans ma tête je me dis Claude va gagner. Mais va jusqu'au bout. Et il y a eu ce petit élan d'impatience de Claude à l'annonce de Denis quand il dit qu'il va retirer la dernière le dernier morceau pour pouvoir nous déstabiliser. Il essaye de replacer ses pieds à ce moment-là et en fait ça le déstabilise, alors que moi à ce moment-là je suis concentrée pour essayer de pas bouger. Et c'est là où je gagne. Et à ce moment-là, je me dis c'est juste incroyable. Je viens de gagner les poteaux de Koh-Lanta. Et là. Je crois que ça s'est vu sur mon visage avec mes bras levés, ma bouche ouverte. Pour moi, j'avais l'impression d'avoir battu Goliath.
Ah bah, est-ce que sûr, une partie de votre cagnotte, vous allez faire un don aux cagnottes Litchi de Claude avec vos 100 000 euros vous pouvez...
Et oui, il y a eu des cagnottes en soutien à Claude.
Ouais. Vous pouvez mettre 100 euros quand même.
assez, il est très, c'est, sur sa réaction a été très honorable parce que effectivement il a mis un terme à ses cagnottes en expliquant que qu'il n'en avait pas besoin et qu'il y avait des associations et des personnes qui étaient plus en besoin et qui n'avaient aucun sens et que l'argent reviendrait aux personnes, même si effectivement ça le touche et je peux le comprendre. Mais il a trouvé ça déplacé et je trouve c'est tout à l'image de Claude, un grand homme comme Claude.
Et c'est vrai que vous n'aviez pas dit à votre mari, est-ce que c'est vrai que vous n'aviez pas dit à votre mari que vous aviez gagné?
Non, mais je n'avais dit ça à personne, c'était un secret. Et alors, les gens, mon entourage, maintenant me regarde assez différemment parce qu'ils me disent, mais t'es capable de gagner ce genre de garder ce genre de secret pour toi. Et même encore mes parents aujourd'hui, parce que j'ai jamais caché grand chose à mes parents. Et aujourd'hui, même encore mon père hier soir me disait, mais je suis ton père, pourquoi tu m'as pas soulagé? Je suis un vieil homme, tu m'as fait vivre des émotions.
Et ils vous ont harcelé jusqu'à la finale ou pas? Ils vous ont harcelé pour savoir ou pas?
Alors mes parents, oui. Mes amis, oui. Mon mari, non. Mon mari, alors, il faut dire que j'étais tellement conditionnée psychologiquement parce que la prod, il dit confidentialité, on ne dit rien à personne. Alors moi, je l'ai pris à la lettre. Et à ce moment-là, même mon mari, pendant la nuit, me pose la question et me demande, et me dit, chérie, t'as gagné Koh-Lanta? Et je lui dis, j'ai pas le droit de te le dire pendant que je dormais, donc pour dire comme quoi.
Oui, voilà.
C'est juste de vérité. Une dernière question. Oui, le bébé, il a été conçu avant ou après Koh-Lanta?
Non, bien évidemment après. Lorsque on parle Koh-Lanta,
au retour.
On fait des tests médicaux et on fait beaucoup d'analyses et bien évidemment, et je serais inconscient déjà, je pense, pour la maman de partir dans cette condition. Non, en fait, Koh-Lanta a été tourné il y a un an. Et moi, je suis tombée enceinte en décembre. Et donc, du coup, j'attends mon petit bébé pour septembre.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite bien du bonheur, de vous reposer, d'en profiter. Et puis, bravo pour cette victoire à vous, Nawel. C'était très, très sympa de vous avoir ce matin. Merci à vous. On se retrouve dans un instant, nous, avec Laurent Ventura pour parler du cycle Ventura. Puis on parlera foot. Dites-nous ce que vous pensez de l'arrêt du championnat. Est-ce que c'est normal que le foot ne reprenne pas? 0826-300-300. Ce sera dans un instant avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on avait envie de rendre hommage à Lino Ventura ce matin avec son fils, Laurent Ventura. Bonjour.
Bonjour, vous m'entendez?
On vous entend très bien, absolument, on vous entend très très bien. On voulait vous avoir au téléphone pour évoquer ce cycle Lino Ventura qui commence aujourd'hui à 13h55 sur France 3. Vous avez raconté la vie de votre père dans un livre. C'est Jacques Pessis qui vous avait reçu d'ailleurs sur Sud Radio pour en parler. Et donc, ça s'appelait Lino Ventura, c'est paru aux éditions de La Martinière. Cet hommage, est-ce qu'à chaque fois que les films de votre père sont diffusés, vous les regardez déjà? C'est une première question. Et quelle émotion vous avez à chaque fois?
Oui, il y en a certains. S'il faut parler d'émotion, moi je suis toujours surpris de voir que bientôt 33 ans après sa mort, il est toujours aussi populaire et toujours dans le cœur et la tête des gens. Et ça me fait... ça m'émeut énormément parce que... Alors évidemment, il y a une génération qui est beaucoup plus jeune, qui ne connaît pas Lino Ventura, mais qui le découvre. Et c'est ça qui est fascinant aussi. C'est-à-dire, je donne toujours l'exemple de jeunes qui regardent, qui ont aujourd'hui 15 ans, 16 ans ou 14 ans, qui regardent les Tontons Flingueurs, qui sont capables de vous réciter par cœur les dialogues, sans savoir qui est Lino Ventura, puisque la dernière fois qu'on a fait une projection avec des gens de cette génération, j'ai une jeune fille de 15 ans qui m'a dit « Le tonton, je ne sais pas qui c'est, mais je le kiffe ». Donc vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire, et ça, c'est ce côté mémoire, ça m'étonne toujours, je veux dire, à chaque fois ça m'étonne, et ça me fait évidemment très plaisir, si vous voulez, qu'il soit aussi présent dans la tête des gens.
Oui, qu'il soit resté et qu'il soit là, Gilles.
Oui, et puis moi je voulais vous faire entendre une petite interview qu'il avait donnée à la télévision suisse où il parlait indirectement de vous, et je vous poserai la question après l'extrait.
Je crois que c'est quelque chose de très délicat, je ne veux pas me poser en professeur d'éducation d'enfants, mais enfin moi je sais comment j'ai élevé les miens, et je suis, si vous voulez, malheureusement pour moi et pour les autres, je suis un homme à principe. Ça a l'air aujourd'hui d'une chose absolument désuète et risible sans doute, mais c'est comme ça, on ne se refait pas. Vous êtes un homme tolérant, pas pour tout, je dois le dire sincèrement.
C'était un papa très dur, non? Très, vous avez été élevé à la dure.
Pas facile. Pas facile, avec des règles à lui très strictes. Il y a des choses qu'on se permettait pas. Je veux dire, moi, j'ai jamais. Si je devais avoir un jour mal parlé à ma mère ou autre, je crois que j'aurais pris une. J'en ai pris un des volets. Mais croyez-moi que ça, il supportait pas. Il supportait pas la correction. Mais c'était pas non plus un homme de discipline. C'était pas un côté militaire à la maison. Hein. C'était. Il y avait des choses qui étaient tout à fait légères et sympathiques. Mais il y avait des principes et ces principes, fallait les respecter. C'est tout. Mais je pense qu'il serait très. Il serait très malheureux aujourd'hui de voir ce qui se passe. Je peux vous dire que ça, c'est quelque chose. Je pense que c'est.
C'est-à-dire
cette espèce d'indiscipline, de manque de respect des autres, tout ça l'aurait certainement blessé. Il avait.
Oui, vous
il
aviez.
Avait, il avait pardon. Un sentiment terrible de qui l'a animé toute sa vie. Il avait horreur de l'injustice. Et donc l'injustice entraînait le non-respect. Donc ça, pour lui, c'était insupportable. Donc il nous a inculqué ces valeurs-là, c'est vrai.
Vous aviez conscience que c'était une star, une vedette, comme on disait à l'époque?
On en a pris conscience un peu plus tard. Moi, c'est vraiment vers l'âge de 16 ans, si vous voulez, qu'on a pris conscience de qui il était. Pourquoi? Parce qu'il nous a toujours tenus à l'écart de son métier. On n'avait pas le droit d'aller sur un plateau. Moi, j'ai jamais vu mon père tourner. Jamais. Interdiction totale. Donc, c'est pas quelque chose qui faisait partie de notre vie. Donc, on a découvert très tardivement qui il était.
Ah, oui. Même à la maison, Bernard Blier ou d'autres comédiens venaient pas manger à la maison. Parce que c'était, il aimait bien manger, d'ailleurs.
Ah si, si, les comédiens, il y avait plein d'amis comédiens qui venaient. Bon, Audiard, moi, on allait le week-end chez Audiard, il n'y avait pas de souci, il y avait des gens. Mais pour nous, bon, ça faisait pas. Bon, on savait qu'il était dans le cinéma, etc., mais on n'avait pas conscience de la dimension qu'il représentait. C'était surtout ça.
Oui. Et là, ce cycle, donc, qui est proposé par François. Alors, il y a eu des changements de programmation.
Oui,
aujourd'hui,
oui.
Ça va être un taxi pour Tobrouk. Demain, 125 rue Montmartre, évidemment. Ouais. Mercredi, ouais. Classe tout risque. Jeudi, évidemment, mythique film Garde à vue. Et vendredi, Le Ruffian. Enfin, presque tous ces films sont des grands classiques. Hein. Vous en avez un, vous, que vous préférez, qui vous est plus cher?
Moi, il y en a un qui m'a terriblement touché, c'est Les Misérables. Bon, je n'ai pas une préférence pour l'un ou pour l'autre, si vous voulez, mais celui qui m'a vraiment touché, c'est Les Misérables, parce que c'est lui, je veux dire, on sent qu'il a connu dans sa jeunesse des moments très douloureux, et dans ses yeux, ça se voit par moments, vous voyez. Donc, il ne ment pas dans ce film, c'est terrible, il ne ment pas, il est d'une sincérité terrifiante. Et c'est pour ça, celui-là, j'aime beaucoup. Sinon, il y a bien sûr Taxi pour Tobrouk, ça me régale. Et 100 000 dollars au soleil qui est passé dernièrement, ça, c'est un monument, je veux dire.
Mais vous les re-regardez ou pas? Vous ne m'avez pas dit si vous les regardiez ou re-regardiez.
Si, ceux-là, je les regarde. Vous voyez, cet après-midi, le Taxi pour Tobrouk, je pense que je vais le faire, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors que je le connais par cœur. Mais elle est tellement formidable entre Biro, Aznavour et lui, et même Hardy Kruger, qui était quand même un personnage un peu particulier. C'est formidable, c'est formidable.
C'est toute une époque.
Pardon,
Gilles.
Il a été aussi celui qui avait monté une association Personnages pour les handicapés adultes et enfants mentaux. Ça existe toujours, Personnages, ou pas?
Oui, ça existe, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que mon père et ma mère avaient fait. Mais ça existe toujours, bien sûr, au contraire.
Mais c'est vrai qu'il s'est engagé, il a été un des enfin, c'est un des à premiers. L'époque, on parlait assez peu de ses enfants différents, il a aidé, en tout cas, à en faire parler, et puis surtout à monter ses structures,
Tout à fait.
Est-ce qu'il aurait envisagé que vous soyez comédien? Est-ce que c'est une chose qui vous a effleuré, ou vous, votre sœur?
Interdiction totale. Ah oui, ça pour lui, non, il ne voulait pas. Il voulait pas. À un moment, j'étais au lycée, j'ai eu des velléités de faire du théâtre, ça s'est vite terminé. Donc,
et qu'est-ce que vous avez fait comme métier?
Oh là, moi j'en ai fait beaucoup. J'ai travaillé très jeune parce que bon, mes études ont été relativement courtes et mon père m'a dit maintenant ça suffit au boulot. Donc j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans.
ce qui est pas plus mal d'ailleurs, parce que j'ai fait pas mal de métiers et moi je m'en porte très bien, si vous voulez, parce que j'ai eu la chance de côtoyer des gens formidables dans tous les horizons. J'ai beaucoup voyagé et tout, donc ça m'a permis de découvrir la vie d'une autre façon. Et grâce à lui et justement à ses valeurs qu'il nous a inculquées, ça m'a permis d'éviter beaucoup de pièges, mais aussi de sombrer dans beaucoup de pièges, parce que vous voyez, pour lui, par exemple, la parole donnée, c'était quelque chose de très important. Les contrats, il les lisait pas, il signait parce que à partir du moment où on lui avait dit ce qu'il y avait dans le contrat, pour lui ça suffisait, vous aviez donné votre parole, c'était fini. Donc ça réserve bien les surprises par moment, mais bon, c'est le passé, c'est fini.
C'est fini, voilà. C'est autre chose. Bah écoutez, cycle Ventura sur France 3 tous les après-midi, donc Taxi pour Tobrouk cet après-midi. On aura évidemment grand plaisir et nos auditeurs à Sud Radio, nos auditrices en particulier, nous disent j'aimais beaucoup Livono Ventura, il représente l'homme fort, respectueux des femmes, macho certes, mais dans le bon sens du terme. Voilà, Les Misérables, fantastiques, Gabin Ventura, quel duo. C'est vrai que la distribution des films dans lesquels il a joué est assez exceptionnel. Merci d'avoir été avec nous, Laurent Ventura. Et puis je conseille vraiment votre livre parce qu'il y a beaucoup de témoignages de gens qui l'ont côtoyé. C'est une manière de le connaître parce que c'est quelqu'un d'extrêmement secret et discret. Et donc c'est votre enfance et c'est également les gens qui l'ont connu, son amour du foot, de la pétanque et de la cuisine, les fameuses pâtes de Lino Ventura.
Il n'y avait pas que ça. Rassurez-vous.
Non, absolument. Merci, Laurent Ventura d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant avec Rémi Pernelet pour parler, et Bruno Fraioli, pardon, pour parler foot business championnat 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio et avec Rémi Pernelet. Bonjour Rémi.
Bonjour Valérie, bonjour Gilles, bonjour Bruno.
Bonjour et Bruno Fraioli, rédacteur en chef de sportbusiness.club. On va revenir évidemment sur l'arrêt du championnat de France de football, décision du gouvernement à l'issue de la 28e journée de compétition. Il restait 10 matchs encore, 10 journées plutôt à disputer. Dans la foulée, la fédération a décidé de figer à cette date tous les classements, aussi bien les professionnels que les amateurs. Alors évidemment, ça fait des heureux, mais ça fait également des malheureux. Rémi Pernelet, cette décision, évidemment, elle est parfois extrêmement contestée. Et c'est vrai qu'on a parfois du mal à comprendre que le championnat ait pu reprendre en Europe et pas en France.
Ben oui, alors c'est-à-dire que sur le plan sportif, c'est vrai qu'il y a eu une décision assez rapide, d'ailleurs imposée, on va dire, par l'exécutif. C'est quand même le Premier ministre qui a expliqué que le championnat ne pourrait pas reprendre. Et ensuite, la fédération a également pris une mesure assez, peut-être un peu trop rapide. Et aujourd'hui, on se rend compte, mais évidemment, c'est avec le recul, c'est plus facile. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la France est le seul pays où le championnat ne reprend pas, alors que tous les autres pays autour de nous, l'Allemagne, on voit beaucoup de matchs en ce moment qui sont à huis clos, mais bon. L'Allemagne, l'Angleterre va reprendre, l'Italie aussi, et donc ils vont terminer leur championnat de façon normale. Alors c'est une question, il y a une question sportive et puis une question économique aussi évidemment, parce que c'est une perte d'argent énorme.
Oui, c'est une perte d'argent colossale, mais c'est peut-être bien aussi ce qui fait aujourd'hui la polémique. On n'entend pas tellement d'autres sports se manifester à ce point. On a le sentiment, en tout cas dans le rugby, si on a pu voir ce week-end justement le président de Bègle qui est assez résigné. Donc s'il y a vraiment une question d'argent, Bruno Fraioli, vous connaissez bien évidemment tous ces sujets.
C'est effectivement une question d'argent, cet arrêt du championnat de France, puisqu'on parle de sommes de plusieurs centaines de millions d'euros, entre 200 et 500 millions d'euros, environ 200 à 300 millions d'euros liés aux droits télé, parce que Canal+ et beIN Sport ont résilié leur contrat de diffusion. Il n'y a plus de matchs à diffuser, donc ils se sont entendus. Au début, ils ont coupé les vivres et puis après, ça a négocié. Alors, il restait encore environ 200 millions d'euros à payer. Donc, ce seront des recettes en moins dans les caisses du foot français, dans les caisses des clubs. Et puis, en plus, Après, il faut également mettre dedans les recettes billetteries. Pour le Paris Saint-Germain, c'est environ 2 à 3 millions d'euros par match. Et puis également de sponsoring. Alors, c'est moins, mais il y a quand même aussi des sponsors qui ont coupé. Donc, tout ça, ça va faire quand même des recettes en moins pour les clubs de football si on parle uniquement économie.
Mais est-ce que ça met pas en lumière justement la fragilité économique du football français qui vit au-dessus de ses moyens, qui paye des joueurs extrêmement chers? Là, on est sur un équilibre économique très très compliqué.
Bah, l'équilibre économique, c'est que les droits télé, en l'occurrence, représentent environ 40% des recettes globales des clubs de Ligue 1. Mais il y a une énorme disparité entre, par exemple, le Paris Saint-Germain, qui a quand même plusieurs millions, dizaines de millions de recettes de droits télé, mais ça ne représente qu'environ 20% des recettes du Paris Saint-Germain, et des clubs comme par exemple Amiens, comme par exemple également Monaco, pour qui c'est quand même plus de 60% des recettes. Alors, effectivement, quand ça ne rentre pas, quand cette partie des recettes ne rentre pas, ça peut créer un déséquilibre budgétaire. Et par conséquence, ça peut également créer un déséquilibre pour les transferts, puisqu'il y aura moins d'argent, et donc moins d'argent pour acheter de grands joueurs.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la décision? Oui, Rémi, pardon.
Oui, mais il faut quand même dire que pour ce qui est des droits télé, il y a eu un nouveau contrat qui a été signé avec Mediapro, on en a parlé la semaine dernière, et qui fait que c'est 1,217 milliard pour à la fois la Ligue 1 plus la Ligue 2. Donc, d'une part, ça va compenser quand même en partie la perte des droits de cette année. Et donc... C'est en fait avec les droits télé quand même malgré tout, plus le sponsoring, que ce système, l'économie du foot professionnel tient debout, et c'est ce qui leur permet de payer des joueurs aussi chers. Et en plus, n'oublions pas qu'ils font des recettes aussi avec des joueurs comme Neymar ou Mbappé. Il y a du sponsoring sur le nom des joueurs, donc voilà.
Mais est-ce que la décision de suspendre le championnat a pas été un peu rapide, ou en tout cas est-ce qu'elle est compréhensible?
Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, c'est assez facile
Bruno
de dire.
Fraioli.
Ouais. C'est assez facile aujourd'hui de dire, oh là là, on aurait dû attendre. Bon, la période à l'époque, quand le Premier ministre a pris la décision, c'est quand même le gouvernement qui a pris la décision d'arrêter les championnats professionnels. Je crois que c'est la seule chose en Europe. La période n'était pas du tout la même. Peut-être, effectivement, il aurait été urgent d'attendre. La période aujourd'hui est différente, et d'ailleurs on va sans doute avoir la finale de la Coupe de la Ligue et la finale de la Coupe de France qui vont se jouer à huis clos sans doute tout début août.
Je pense que c'est une erreur. Je pense que le pouvoir exécutif s'est un peu mêlé de choses qui vous avez peut-être pas besoin de rentrer autant dans les détails. Ils devaient donner des règles sanitaires et ensuite laisser, je pense, les instances organiser la reprise ou l'arrêt du championnat. Et je pense qu'on a été les seuls. Et c'est encore un peu peut-être un signe, vous voyez, de la façon très verticale dont on fonctionne en France. Et on a été les seuls à prendre cette décision aussi vite. Moi, je pense que c'est une erreur, oui. On s'en rend compte maintenant, c'est vrai, plus facilement qu'au début de la crise, mais malgré tout, ça a quand même faussé le championnat, même si Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, a des outrances dans sa façon de s'exprimer. Sur le fond, il n'a pas quand même complètement tort. Donc, je trouve que c'est quand même une mesure...
Certains réclament de ne pas jouer à 22 clubs, c'est-à-dire de ne faire descendre aucune équipe.
Ah oui, c'est ça, c'est une des demandes de beaucoup de patrons de clubs, c'est qu'en fait, on gèle, puisque normalement, il y a 20 clubs dans une division, que ce soit Ligue 1, Ligue 2 ou même en amateur, et ensuite, les deux derniers descendent et les deux premiers montent.
Donc l'idée n'est pas les faire descendre.
Ouais. Donc il y a un recours là-dessus. Je crois qu'il y a une décision qui va être prise peut-être prochainement, Bruno.
Oui, alors il y a beaucoup effectivement de recours, notamment ceux de Jean-Michel Aulas, puisque aujourd'hui ou demain, on attend le retour de sa demande de référé au Conseil d'État pour justement l'arrêt du championnat de France. Personnellement, si j'ai une critique à faire sur ce qui s'est passé, c'est surtout le discours totalement chacun allait de son côté et chacun prêchait pour sa paroisse. Ça montrait pas, il n'y avait pas d'homogénéité du discours des présidents de clubs. On a beaucoup mis en avant l'aspect économique. Et je crois que ça a encore donné une mauvaise image du football français, du football business, alors qu'on aurait dû parler de l'aspect sportif. Les athlètes, les sportifs, les footballeurs eux-mêmes craignaient cette reprise. Peut-être qu'il aurait fallu peut-être plus se pencher sur l'aspect sportif des choses. On fait un championnat, c'est une compétition sportive, et peut-être c'est ce cadre-là qu'il aurait fallu voir comment refaire une compétition dans des conditions sanitaires les meilleures possibles.
Oui, c'était une cacophonie incroyable de la part des dirigeants du foot français, c'était incroyable. Moi, j'ai vu un article que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'est sur France TV Sport, ils expliquent que le huis clos, puisqu'on est obligé d'avoir des matchs à huis clos maintenant partout en Europe, ça fausse la donne. C'est-à-dire que des clubs plus petits qui avaient des spectateurs avec une ambiance formidable, on peut penser à Lens, on peut penser dans Europe à des clubs comme ça, ils avaient une chance de battre les plus gros. Ça s'est passé, Amiens a battu PSG par exemple. Et bien maintenant, il n'y a plus ce soutien populaire qui pousse des petites équipes à se dépasser, et ça fait que maintenant, la valeur footballistique prime, et du coup, c'est les gros clubs avec le plus d'argent et le plus de grands joueurs qui sont, j'allais pas dire favorisés, mais qui se retrouvent plus sûrs. Donc, on a peut-être un peu une perte de l'attrait populaire du championnat. C'est une vision.
Le huis clos, vous en pensez quoi? Est-ce que ça permettrait de reprendre le championnat?
Le huis clos est un pis-aller, on peut dire effectivement dans les conditions sanitaires actuelles, on met en avant la compétition sportive. En tous les cas, dans une enceinte fermée, c'est possible. Après, oui, il y a de l'ambiance en moins. Alors, il y a des artifices, il y a des startups qui mettent en place certaines applications qui permettent de donner un petit peu d'ambiance, du moins à l'antenne, pour ce spectacle télévisé. Maintenant, est-ce que cela a une influence sur le jeu? Certains disent que oui, que c'est effectivement ce 12e homme, mais finalement, le terrain est le même pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de spectateurs et de supporters pour une équipe ou pour l'autre équipe. Ça peut être un pis-aller, effectivement, pour terminer le championnat, si le championnat devait se terminer. Devrait reprendre. Mais c'est vrai qu'au niveau ambiance et au niveau télé, il faudra quand même des artifices pour rendre le spectacle plus attrayant.
Et on voit, Valérie, l'importance des diffuseurs et des droits télé dans cette histoire. Parce qu'en fait, vous voyez, toutes les grandes chaînes payantes dans le monde, en Europe, voulaient absolument aussi que les championnats reprennent, parce que ils ont des abonnés qui ont payé pour avoir des matchs en exclu, et que donc il vaut mieux des matchs un peu dégradés avec pas de public que pas de match du tout. Et donc là, on est assez vite rentré quand même dans cette logique, malgré tout financière, qui fait que des clubs ont dit « Allez, hop, les joueurs, vous retournez, vous entraînez. On n'est pas encore sûr des conditions sanitaires, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est pouvoir rejouer pour pouvoir avoir à nouveau touché des droits de nos diffuseurs. » Et on est dans là, c'est une logique quand même assez économique.
Et au niveau de la compétition européenne, ça va être compliqué aussi?
Ça va pas être simple, parce que là, aujourd'hui, on ne sait pas encore qui est vraiment qualifié. Lyon peut encore se qualifier pour une compétition européenne s'il gagne la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas, c'est tout à fait sportivement possible. Donc, on ne sait pas encore. Lyon est encore qualifié en parallèle à la Ligue des Champions.
Non, mais il y a même là, actuellement, la phase de 2020, on ne sait pas comment elle va se terminer.
Il y a un gros point d'interrogation.
C'est exactement ça, puisque Paris Saint-Germain est qualifié pour les quarts de finale. Lyon est encore qualifié en huitième de finale. Lyon pourra avoir un double parcours entre la Ligue Europa, s'ils sont qualifiés, de la saison prochaine, et la Coupe d'Europe de la Champions League de cette année. On leur souhaite d'ailleurs. Rien n'est simple. Je voudrais juste dire un mot aussi.
Bruno Fraioli.
Des conséquences encore même pour la saison prochaine de cet arrêt, puisque le président de Mediapro, qui effectivement quand même met beaucoup d'argent sur la table, Rémi, vous avez dit tout à l'heure que les droits télé étaient passés à 1,2 milliard, Le président de Mediapro a dit l'autre fois lors d'un point presse qu'il craignait justement qu'avec ce manque d'argent, il n'y ait moins de transferts et que donc le produit qu'il va diffuser soit moins attractif. Là, ça augure également des tractations et des négociations avec le détenteur de droits, avec la Ligue de football.
Oui, beaucoup de. Alors, on reprend à huis clos ou pas, Rémi, vous qui êtes un grand amateur de foot, est-ce qu'il vaut mieux reprendre à huis clos ou pas?
Enfin, moi, j'ai envie de voir des matchs, j'allais vous dire. Ouais. J'ai envie de voir des matchs, donc je préfère donc, que ça reprenne à huis clos que pas du tout, oui.
Et Bruno aussi, Rémi, ou pas?
Rémi, il a sa carte de presse, donc il pourrait très bien aller dans le stade pour assister au match à huis clos.
Mais là, on parle de l'intérêt général. On parle de l'intérêt général, Bruno Fraioli. Merci à tous les deux.
Ça peut jouer à huis clos.
Bruno Fraioli, donc rédacteur en chef de votre site sportbusiness.club. Merci à tous les deux. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. En particulier, évidemment, on va parler des violences. La police est-elle violente? Y a-t-il un problème avec la police en France? On en parle avec vous dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.